VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 30 janvier 2023. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer les titres, en RDC, au moins 15 morts dans de nouvelles attaques attribuées à la milice ADF en Ituri. En Tunisie, l'opposition appelle à l'union contre le président Saïd après le nouveau revers électoral subi par ce dernier. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Caire, avant Jérusalem et Ramallah, en pleine flambée de violence israélo-palestinienne. La guerre en Ukraine ne se transformera pas en conflit entre la Russie et l'OTAN, assure le chancelier allemand Olaf Scholz. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Onpadine ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Dans l'est de la République démocratique du Congo, de nouvelles attaques de villages ont fait hier au moins 15 morts. Ces dernières attaques dans la province de l'Ituri sont attribuées aux rebelles ADF, milice affiliée au groupe État islamique Lionel Gahima.
Il y a eu des attaques simultanées dans trois villages sur le tronçon Komanda-Luna en chefferie de Walese-Vonkutu, selon Dieudonné Malangai, acteur de la société civile de cette chefferie en territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Selon lui, sept corps ont été retrouvés au village Manyala et il y a 8 morts, dont cette femme à Ofai. Les rebelles ADF ont également attaqué le village de Bandibese, mais se sont heurtés à la résistance des soldats, a déclaré Malangai. Les combattants des ADF ont également été accusés des raids de la semaine dernière dans la province voisine du Nord Kivu, qui ont coûté la vie à au moins 23 personnes, et dans cette même province, le 15 janvier, au moins 14 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une bombe dans une église pentecôtiste. Le groupe État islamique présente les rebelles ADF, des musulmans originaires de l'Ouganda, comme sa branche en Afrique centrale. Pour tenter d'endiguer la violence, le gouvernement a déclaré en mai 2021 l'état d'urgence au Nord Kivu et en Ituri, mais les violences continuent.
Toujours en RDC, les derniers préparatifs ont lieu à Kinshasa, la capitale, qui accueillera le pape François ce mardi. Le souverain pontife restera jusqu'au 3 février et va rencontrer des victimes du conflit dans l'est du Congo. Plus de 8 millions de Tunisiens se sont rendus aux urnes hier pour le second tour des élections législatives. Mais comme au premier tour, le taux de participation a été très faible. Rosine Mounet, zéro.
Très peu de Tunisiens se sont déplacés dimanche pour élire un parlement. Le président de l'autorité électorale, Farouk Bouasker, a annoncé un taux de participation provisoire de 11,3%. La participation était le principal enjeu du scrutin. 262 candidats se présentent au deuxième tour des législatives pour 131 sièges sur les 161 du Parlement, l'une des dernières étapes de l'instauration d'un système ultra-présidentialiste. D'ailleurs, la principale coalition d'opposants a appelé hier à faire partir le président Kais Saied. Le Front de salut national, qui inclut le parti d'inspiration islamiste Ennahda, a appelé les autres partis d'opposition, la société civile et la puissante centrale syndicale UGTT à travailler main dans la main pour créer le changement par le départ de Kais Saied et à aller à une élection présidentielle anticipée. À cette crise politique s'ajoute une profonde crise sociale et économique. Le pouvoir d'achat a plongé avec une inflation supérieure à 10%, plus des pénuries sporadiques de produits de première nécessité, comme le lait, l'huile ou la semoule.
Des hommes armés ont ouvert le feu hier sur un groupe de personnes qui célébraient un anniversaire dans un township en Afrique du Sud, faisant 8 morts et 3 blessés, a rapporté la police ce lundi. Une enquête a été ouverte et une chasse à l'homme est en cours pour retrouver les auteurs de l'attaque. Des fusillades se poursuivent de manière régulière en Afrique du Sud, pays qui affiche l'un des plus hauts taux d'homicides du monde, nourri par la violence des gangs et l'alcool. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a entamé hier dimanche au Caire une tournée au Moyen-Orient pour tenter d'apaiser les tensions en pleine flambée des violences israélo-palestiniennes. Claire Morin-Gibourg.
Avant son départ pour Israël, M. Blinken rencontre ce lundi le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry. L'Égypte joue historiquement le rôle d'intermédiaire entre les deux protagonistes. M. Blinken va aussi rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas et va appeler à prendre des mesures pour désamorcer les tensions, a déclaré Vedant Patel, porte-parole du département d'État. Ce déplacement, programmé de longue date, revêt une nouvelle urgence après les pires violences de ces dernières années. Vendredi, un Palestinien a tué 7 personnes à l'extérieur d'une synagogue dans un quartier de Colon de Jérusalem-Est avant d'être abattu par la police israélienne et une autre attaque a suivi samedi. 10 personnes ont été tuées lors d'un raid de l'armée israélienne jeudi dans le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupée. Israël a déclaré qu'il visait des militants du djihad islamique et a frappé des sites dans la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, en réponse à des tirs de roquettes.
Le pape François a déploré ce dimanche la spirale de la mort grandissante au Proche-Orient, appelant les deux parties du conflit israélo-palestinien à s'engager dans la recherche sincère de la paix. Le chancelier allemand Olaf Scholz a réaffirmé dimanche que son pays ne permettra pas que la guerre en Ukraine se transforme en conflit entre la Russie et l'OTAN. Nous avons contribué à ce qu'il n'y ait pas d'escalade du conflit, car cela aurait de graves conséquences pour le monde entier. Cela conduirait par exemple à une guerre entre la Russie et les pays de l'OTAN. Cela n'arrivera pas, nous l'empêcherons par tous nos efforts. Nous avons réussi jusqu'à présent et nous continuerons à le faire, a déclaré le chef du gouvernement allemand, après avoir rencontré le président chilien dans le cadre de sa tournée en Amérique latine. Il s'agit de soutenir l'Ukraine, il s'agit d'avoir un débat sérieux pour prendre les décisions qui doivent être prises et cela ne devrait pas être une compétition pour savoir qui envoie le plus d'armes, a-t-il fait valoir. Monsieur Scholz a expliqué à Santiago du Chili que lui et son homologue américain Joe Biden refusent d'envoyer des troupes en Ukraine afin d'éviter une escalade du conflit. Des bombardements russes sur Kherson dans le sud de l'Ukraine ont fait dimanche au moins 3 morts et 6 blessés. Dans le même temps, le chancelier allemand Olaf Scholz a affirmé que l'Allemagne n'enverrait pas d'avions de combat en Ukraine, Jean-Roger Bion.
L'armée russe a bombardé brutalement Kherson toute la journée. Un hôpital, un bureau de poste, une gare routière ont été endommagés. Au total, on signale 6 blessés et 3 morts, a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le front dans le sud de l'Ukraine, où l'armée russe a dû abandonner Kherson en novembre, a été dernièrement beaucoup plus calme que celui de l'est du pays, où se déroulent des combats acharnés. Mais les bombardements de part et d'autre n'ont jamais cessé. Dans le même temps, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que son pays n'enverra pas d'avions de combat en Ukraine, alors que Kiev réclame à l'Occident encore plus d'armement pour contrer l'invasion russe. Après plusieurs semaines d'hésitation, Berlin avait décidé mercredi d'envoyer en Ukraine 14 chars Léopard 2.
Ici aux États-Unis, le chef de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, va s'entretenir mercredi avec le président démocrate Joe Biden des moyens d'éviter un défaut de paiement. Intervenant hier sur la chaîne CBS, il a dit que M. Biden doit revenir sur son refus d'envisager de réduire les dépenses en échange d'un relèvement du plafond de la dette. M. McCarthy a affirmé vouloir trouver un moyen responsable et raisonnable qui permette de relever le plafond de la dette tout en limitant ce qu'il a appelé les dépenses hors de contrôle du Congrès. Il s'agira en tout cas du premier entretien entre les deux hommes depuis que M. McCarthy est devenu le patron de la Chambre basse où les républicains sont devenus majoritaires après les élections de mi-mandat. Le gouvernement britannique met en œuvre à partir de ce lundi de nouvelles mesures pour faciliter l'expulsion de délinquants étrangers en cherchant à les empêcher de se présenter à tort comme des victimes d'esclavage moderne. Le gouvernement conservateur de Rishi Sunak s'efforce de résoudre la saturation de son système d'asile, mise à rude épreuve par les arrivées records de migrants par la Manche et les failles du système susceptible d'être exploité. Au Pérou, on s'attend à une poursuite aujourd'hui du mouvement de protestation contre la présidente Dina Boluarte et le Parlement, alors que samedi, pour la première fois à Lima, une personne est morte lors de manifestations qui ont dégénéré en violence. Cela porte à 48 le nombre de victimes depuis le 7 décembre, c'est-à-dire depuis que les troubles ont débuté après la destitution et l'arrestation du président de gauche, Pedro Castillo, accusé d'avoir tenter un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Togo, le concours national primaire curial du meilleur mémoire en droit des affaires, lancé mercredi à Lomé, est ouvert aux étudiants jusqu'au 6 février. L'initiative va récompenser les meilleures mémoires susceptibles de contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Des enveloppes sont réservées aux 3 meilleures mémoires retenues et les gagnants bénéficieront de formations avec des professionnels du droit. Les résultats sont attendus en avril. En Afrique du Sud, le Bureau des producteurs indépendants d'électricité indique s'apprêter à lancer un appel d'offres pour 513 MW de capacité de stockage par batterie. Le pays pourrait se procurer 1700 MW de stockage par batterie cette année. Le Bureau compte aussi lancer un nouvel appel d'offres du programme d'approvisionnement des producteurs indépendants d'énergie renouvelable. Le précédent comptait 56 projets éoliens et solaires. En Angola, la mine de diamants Loulo a livré 35 398 carats l'an dernier, soit une hausse de 44% en glissement annuel selon l'Australien Lucapa Diamond. Ce total comprend 453 diamants de plus de 10,8 carats, soit 74% de plus qu'en 2021, dont 10 diamants de plus de 100 carats. La quantité de diamants vendus a augmenté de 17% en glissement annuel pour atteindre 32 489.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer avec le CHAN en Algérie. On connaît l'affiche des demi-finales.
Oui, Madagascar affrontera le Sénégal et le Niger fera face au pays organisateur, l'Algérie. Une première demi-finale pour les Nigériens et les Malgaches qui n'en finissent plus d'étonner. Les Baréas, invaincus jusqu'à présent, ont obtenu leur qualification au terme d'un large succès 3-1 sur le Mozambique. Le MENA, qui était à sa 4e participation, a dompté les Black Stars du Ghana 2-0. Les deux demi-finales auront lieu demain.
Le lendemain, la CAF procédera au tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans qui aura toujours lieu en Algérie.
Tout à fait. La cérémonie se déroulera à partir de 11h, temps universel au Caire. L'instance fêtière devrait aussi communiquer les chapeaux qui seront utilisés pour répartir les 12 sélections qualifiées avec probablement le Cameroun, tenant du titre, et l'Algérie, pays hôte, parmi les têtes de série. Pour rappel, ce tournoi qui n'a plus lieu depuis 2019 se tiendra du 29 avril au 19 mai prochain.
Cyclisme maintenant avec l'épilogue de la Tropicale Amissa Bongo.
Oui, une édition de 2023 remportée par le français Geoffrey Soupe de l'équipe Total Énergie qui avait repris le maillot jaune à l'issue de la 6e étape. Il devance au classement général l'Algérien Hamza Amari et le Mauricien Christophe Rouget Lagan. Les Érythréens Nathanael Baran et Dawit Yeman sont classés respectivement 4e et 5e. 4 coureurs africains dans le top 5, une première en 16 éditions. Et c'est le Danois Alexander Salbi qui a remporté la dernière étape courue dans les rues de Libreville. Il a devancé l'Érythréen Enoch Mouloubran et le Russe Sergei Rostosev.
On termine avec du handball et le Danemark remporte le mondial masculin en Pologne et en Suède.
Exactement, Idrissa. Les Danois dominateurs ont battu en finale la France 34-29 et remportent la compétition pour la troisième fois d'affilée pour les matchs de classement. L'Espagne prend la troisième place après avoir battu la Suède 39-36. L'Allemagne vainqueur 28-24 de la Norvège termine cinquième et l'Égypte septième suite à sa victoire sur la Hongrie 36-35 après prolongation.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, après quelques jours de combats entre les forces armées et les rebelles du M23, la cité stratégique de Kichanga, en territoire de Masisi, est passée jeudi dernier entre les mains des rebelles. Près de 90% de la population a vidé les lieux. La ville de Goma est devenue encore plus menacée d'enclavement et la vie est devenue difficile, voire intenable, nous dit dans ce reportage notre correspondant au Nord Kivu, Zanem Neti Zaidi.
Certains habitants de Goma craignent une probable pénurie de nourriture sur le marché suite à la prise jeudi dernier de la cité de Kichanga par les combattants du M23. La plupart des personnes rencontrées dans le riz de Goma disent qu'avec les blocages de la route de Kichanga-Masisi, l'approvisionnement en nourriture commence à montrer ses limites. Jean Calémo, père de famille, a peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.
Avec la situation de ces deux routes qui sont fermées, nous perdons espoir que les choses s'améliorent. D'abord, nous observons, mais ensuite, nous allons mourir de faim. L'argent ne circule pas comme il le devait. Vous savez que la première route de Kiwanja a été fermée. Aujourd'hui, la route de Kichanga est également fermée. Nous ne savons pas si nous allons commencer à avoir de la nourriture.
Le même sentiment est partagé par Christine Nzongo, une mère de famille qui craint les pires en cette période où la situation sécuritaire se détériore considérablement.
Je vis dans la peur, nous allons mourir de faim. Je ne sais pas ce que mes enfants vont manger. Lorsque la route de Rutshuru était fermée, la braise, par exemple, s'est négociée à 50 dollars le sac. Et aujourd'hui, une autre route vient d'être fermée alors qu'il y a une crise économique.
Cette préoccupation est partagée par la société civile de Goma. Son président a déclaré qu'une pénurie de nourriture se fera sentir à Goma. Marion Gavo demande au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir les routes des dessertes agricoles.
Il y a une montée vertigineuse de coûts des denrées alimentaires à Goma et c'est pourquoi la société civile demande aux autorités provinciales et nationales de tout faire pour essayer de remettre le calme.
L'armée qui a affirmé avoir opéré un repli tactique à Kichanga pour éviter des pertes civiles essaye de rassurer que la situation sera rapidement sous contrôle. Le colonel Guillaume Djike Kaiko, porte-parole des opérations Sokola de Nord Kivu, invite la population à ne pas s'aligner derrière le jeu de l'ennemi qui veut créer une psychose pour pouvoir régner en maître.
Les forces armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien présentes et que cette population n'a rien à craindre. C'est ça le mode opératoire de l'ennemi, chercher à nous pénétrer, chercher à nous séparer de manière à ce qu'il puisse trouver de l'espace parmi nous.
80% de la nourriture consommée par la population des Goma vient des zones rurales envahies par les rebelles. Le M23 tente de progresser dans le Masisi, ce qui risque encore d'aggraver la situation. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Sénégal, la violence contre les enseignants, un phénomène de plus en plus fréquent dans les écoles. Le meurtre d'un enseignant par son ancien élève à Kaolack, dans le centre du pays, et une vidéo montrant un surveillant tabassé par des élèves sont venus aggraver la situation. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Dans les salles de classe, dans les cours des établissements, dans la périphérie des écoles et bien au-delà, la défiance des élèves envers les enseignants a atteint un niveau alarmant. Comment en est-on arrivé là? Personne ne saurait réellement le dire tant les causes sont multiples, d'après Oulimata Diagne, professeur d'espagnol dans un collège de la banlieue de Dakar.
Pour généraliser, les élèves sont tellement indisciplinés. Il y a aussi le nombre pléthorique, l'effectif en classe, ça joue parce que là, dans ce cas, la gestion de la classe devient difficile.
Fréquemment pointés du doigt, les parents d'élèves estiment que les responsabilités sont partagées entre des parents laxistes dans l'éducation de leurs enfants et des enseignants intolérants dans la gestion des apprenants. Madame Badji témoigne en tant que parent d'élève et aussi ancienne victime de violences scolaires.
Parfois, il y a des professeurs ou des maîtresses ou maîtres qui maltraitent les enfants. Oui, comme moi, parce que moi aussi, j'en ai suivi à l'école maternelle. Et ma fille aussi l'a suivi à l'école.
Alun Badara pense que la solution aux violences contre les enseignants ne peut venir que de ces derniers et des parents d'élèves. Pour ce conseiller pédagogique, les enseignants doivent être mis à niveau dans certains domaines et les parents plus rigoureux dans l'éducation de leurs enfants.
Bon, tout d'abord, je me dis que là, peut-être que la formation de certaines professeurs peuvent manquer du point de vue, le développement personnel, parce que la plupart ne savent pas comment coacher ou gérer les élèves.
Les enseignants qui subissent les violences scolaires estiment que ce sont des faits graves qui sont souvent banalisés, car au-delà des mesures disciplinaires, les élèves ne sont pas réellement inquiétés. Pour eux, le meurtre récent d'un professeur et l'agression médiatisée d'un surveillant par des élèves sont venus rappeler à tous que les professionnels de l'enseignement ne sont plus en sécurité, ni dans les établissements scolaires, ni dans les rues. Seydina Abagué pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Bénin, la déperdition scolaire prend de l'ampleur dans le pays, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et l'implication des acteurs de l'éducation. Le phénomène persiste et touche plus les filles que les garçons. Précision de notre correspondant à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Considéré comme l'ensemble des difficultés qui empêchent l'apprenant inscrit dans un lycée ou collège d'achever ses études dans le délai prescrit, les causes de la déperdition scolaire sont multiples. Conscient que les filles sont les plus touchées par la situation, le gouvernement depuis quelques années a décidé de rendre l'enseignement gratuit aux filles jusqu'au collège. La nouvelle a été bien accueillie par les parents d'élèves, surtout ceux qui ont du mal à payer la scolarité pour leurs enfants.
Bon, nous, on n'a pas eu la chance de passer par là.
C'est une très bonne chose. Ça va permettre aux filles de mieux s'insérer dans le milieu scolaire et d'aller le plus loin possible, d'aller dans des instances de décision. Il faut encourager, mais il faut motiver surtout le développement de la nation.
Malgré les efforts du gouvernement et des organisations pour freiner ce phénomène, il persiste et les raisons sont nombreuses. Marie-Rosa Moussou est médiatrice. Elle évoque ici les raisons que lui donnent les parents pour expliquer leur réticence à envoyer les filles à l'école.
Tout a commencé avec des sensibilisations et je suis là pour jouer le rôle d'intermédiation sociale. Dans nos sensibilisations, en cherchant à savoir les causes d'abandon, les parents donnent comme l'une des raisons que les grandes filles doivent rester à la maison et garder leurs petits frères ou sœurs.
Mais il n'y a pas que cette raison-là. Il y a également le mariage précoce. Il suffit que les premiers seins apparaissent ou que la fille ait ses premiers menstrues pour qu'elle soit retirée de l'école pour rejoindre son époux qui lui a été donné depuis le ventre de sa mère ou juste après sa naissance. Parfois, le père a déjà épuisé la dot.
Une fille qui est en état de grossesse court
5 fois plus de risque de mourir lors de son accouchement. Donc l'enfant ne peut pas donner naissance à l'enfant. Même l'argent que le parent reçoit une fois lors du mariage de l'enfant ne peut pas régler tous les problèmes que l'enfant, la fille subit après son mariage.
Les enfants, ils n'ont pas la maturité qu'il faut.
Grâce à des actions combinées du gouvernement et des Nations Unies, certaines zones du Bénin, connues pour leur faible taux de filles à l'école, sont en train de se mettre au pas, même si le chemin est encore long. Raymond Koudjé est enseignant.
La scolarisation a un tableau peu reluisant et il a fallu l'intervention de programmes de l'UNICEF pour insuffler un certain dynamisme au tableau de scolarisation des enfants en général et des filles en particulier. L'UNICEF est venu en appoint aux enfants à travers les kits scolaires, la dotation de mobilier. Présentement, les enfants s'asseyent à 2 par table banc. La dotation de l'école en manuel et en cahier d'activité.
En dehors des bourses et autres accompagnements, le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégrée au Bénin, a mis en place les cantines scolaires afin d'aider les parents qui sont dans des conditions précaires, selon le ministre des enseignements maternels et primaires, Zaliman Karimo.
Le rôle de l'école, en réalité, et a priori, c'est faire acquérir aux apprenants le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, peut-être également le savoir-devenir. Pour cette raison, l'État met en place les infrastructures, l'État met les enseignants, l'État équipe les écoles en matériel didactique. C'est le rôle de l'école.
Outre les chefs d'établissement et parents, l'État et ses partenaires doivent également jouer convenablement leur rôle. Ils doivent intensifier la sensibilisation et multiplier les actions auprès des élèves, surtout des zones reculées et frontalière du Bénin. La déperdition scolaire, c'est une affaire de tous. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, les nouveaux cas d'infection au VIH-Sida inquiètent les responsables du Centre de lecture et d'animation culturelle de Koumra, ainsi que la délégation sanitaire de la province du Mandoul. Avec l'appui de l'UNICEF, les responsables du centre sensibilisent et encouragent les jeunes du Mandoul à travers les pères éducateurs et ce qu'on appelle en arabe local les « super banates ». Et on les encourage à se faire dépister pour mieux connaître leur sérologie. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Les jeunes filles et garçons du quartier Goulaï, dans le premier arrondissement de la ville de Koumra, dans le sud du Tchad, brisent les pesanteurs sociales en répondant à l'appel des filles averties appelées super banates signifiant en arabe local « filles modèles ». Dans un passé récent, parler de cette maladie au milieu jeune au Tchad était un tabou. Dans une séance de sensibilisation pour la prévention contre le VIH et SIDA, écoutons Chancel Nadia, la une des super banates.
On invite les jeunes du quartier, de l'école, on discute sur comment faire pour stopper le sida au Tchad. Certaines, ils viennent et il y a certaines qui refusent. Quand on ne parle pas de sexualité, c'est ce qui est à la cause de ces fléaux. Donc le mieux, c'est de parler entre garçons et filles et prendre des précautions.
Marie Noël, une autre super banate infectée, encourage les jeunes à connaître leur sérologie.
Ils m'ont détecté zéro positif le 22 décembre 2010. C'est par rapport à un gars qui est venu envers moi pour me marier en 2010. J'ai 15 ans quand m'avait fait ça. Et maintenant le gars est mort parce qu'il a refusé d'aller prendre les médicaments. Je conseille aux jeunes d'aller prendre les médicaments. Il y a des jeunes qui ne veulent même pas partir à l'hôpital. Quand ils refusent, je pars, je prends leurs médicaments, je les amène à la maison. C'est ça mon devoir. C'est la honte qui tue. Le sida ne tue pas.
Les jeunes qui acceptent le conseil sont orientés au centre de lecture et d'animation culturelle où les dispositifs sont mis en place pour le test de dépistage. Selon les responsables de ce centre, les tests de dépistage se font 3 fois par semaine et ceux qui sont déclarés séropositifs sont pris en charge au sein même de cette institution pour éviter que les personnes infectées se volatilisent dans la nature.
Entre-temps, quand les jeunes ont les dépistages positifs, on les envoie à l'hôpital, 2 fois ils disparaissent dans la nature. Donc depuis 2 ans, nous sommes en train d'expérimenter et ces jeunes, ils prennent normalement les médicaments.
Gabo Sanga, animateur principal du CLAC, il donne les statistiques de l'année 2022 et estime par ailleurs que les jeunes du Mandoul sont en train de prendre conscience du danger.
Nous avons 7582 jeunes sensibilisés, dont avons 4591 filles. Nous avons dépisté 2397 jeunes, dont 1491 filles. Nous avons eu 13 séropositifs, dont 10 filles. Tous les 13 sont sous traitement au niveau des classes. Chaque jour, les jeunes viennent pour demander, moi, je ne peux pas m'abstenir. Est-ce que vous pouvez pas mettre à notre disposition des préservatifs? Parce que maintenant, je connais ma sérologie, je veux me protéger. Donc, durant l'année 2022, par exemple, la délégation a mis 5 grands cartons de préservatifs par notre disposition. Les 3 ont été utilisés. Je pense que les jeunes sont en train de prendre conscience du danger qui est en train de venir.
Le centre de lecture et d'animation culturelle de Koumra est appuyé dans cette mobilisation et les campagnes de masse sur la santé de reproduction par l'UNICEF à travers le Fonds mondial et la délégation sanitaire de la province du Mandoul dont l'appui matériel a permis cette initiative. André Kotouma Djingar de retour de Koumra N'Djamena pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Lionel Ronanira Gahima, à la console, Kelvin Swaller. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.